Parce que c'est pas un évangile facile. Alors il y avait la maison d'évangile Cap-Verdien qui s'est réunie hier, et qui avait cet évangile un peu pire, mais je crois que vous avez médité sur la lettre de Paul. Je vous dis deux mots de la lettre de Paul. On lance l'habitude que les maisons d'évangile se réunissent de nouveau, et que quand on fait une messe en donnant la parole, c'est avant que je partage, les maisons d'évangile qui se sont réunies dans la semaine viennent nous dire quelques lumières. Ça va dissuader tout le monde de se réunir, hein, si vous prenez la parole.
Et vous priez que Dieu nous livre des hommes de vrai.
C'est Paul là qui écrit, nous avons demandé ça. Il dit, vous priez pour délivrer la perversion.
Alors, elle peut faire lourd. Non.
Alors je ne sais pas si vous avez compris l'évangile, même si vous avez trouvé des paroles de vie. Il y a des gens qui essayent de se faire une image de comment ce sera après la résurrection. Alors ils prennent l'histoire d'un homme, d'une femme. Elle épouse 7 maris successivement, puisqu'à chaque fois, il meurt. Et alors, quand elle va ressusciter, elle a 7 maris, elle fait comment? Ils n'arrivent pas à croire parce qu'ils essayent de se faire une image. Il ne faut pas se faire d'image de la vie après la mort. Il ne faut pas se faire d'image de Dieu. Je vais prendre un autre exemple. Quand vous étiez dans le ventre de votre maman, ça y est, vous êtes tous rentrés dans le ventre de votre maman. Vous êtes mis en position, la tête en bas. Quand vous étiez dans le ventre de votre maman, si jamais vous avez su parler et que j'étais venu vous interviewer, comment ça va être le monde où tu vas naître? Est-ce que vous saviez m'expliquer? Est-ce que vous pouviez, dans le ventre de votre maman, la tête en bas, bien à l'étroit, dans le noir, dans l'eau? Est-ce que vous pouvez imaginer le monde où nous sommes? Non, aucun moyen. Et c'est pas parce que vous ne pouvez pas faire une image que le monde n'existe pas. D'accord? Ça, c'est pareil. Je ne peux pas me faire l'image de la vie après la mort, mais je peux faire confiance à Jésus. Mais mieux que ça, quand vous étiez dans le ventre de votre maman, que le papa mettait la main sur le ventre de votre maman, vous alliez vous blottir contre cette main et votre rythme cardiaque s'accélérait. Vous étiez très très heureux de sentir un papa que vous ne pouviez pas voir. Ça ne prouve rien. Et moi, ça me parle de me dire, je ne peux pas voir Dieu Père, mais je peux sentir la joie dans mon cœur quand je l'écoute parler dans mon cœur. Et si je veux connaître Dieu, que je ne peux pas voir, c'est vraiment. Donc je regarde Jésus, comment il est, comment il vit. Et Jésus nous promet la résurrection. Et ça, ça change la manière de vivre aujourd'hui. Par exemple, dans la première lecture, il est question de 7 frères. Le roi, qui occupait la terre d'Israël, voulait que les gens abandonnent la foi en un Dieu unique. On a un Dieu d'amour. Alors les Juifs ont l'habitude de ne pas manger de porc. Ils disaient, tu vas manger du porc pour bien montrer que tu n'es plus croyant. Et eux, les serfs, ils disent, je préfère mourir parce que je sais que j'ai la vie éternelle plutôt que de renier ma foi. Un sacré courage. Ils préféraient ne pas suivre la pression et même le risque de leur vie. Parce qu'ils croyaient en Dieu d'amour. Alors ça vous paraît une histoire du passé, mais quand j'habitais à Lyon, avant d'arriver à Jean 23, j'étais le responsable d'un séminaire, une école de prêtres. Il y avait là Timothée. Timothée, il avait 30 ans, à l'époque il avait 25, il était iranien. Quand il était jeune, il a trouvé dans la bibliothèque de son papa d'abord le Coran, puis il l'a lu. Son papa n'était pas croyant. Et puis, à l'école, il a étudié en philosophie des gens qui étaient chrétiens. Alors il a lu tout l'évangile. Et puis il s'est dit quand même, l'évangile, c'est vachement. Il est question de pardon. Et il a voulu devenir chrétien. Et on se demande, c'est interdit. Il a été persécuté déjà, il a été embêté. Et puis il s'est dit, mais tous mes frères persans, tous mes frères iraniens qui trouvent Jésus, ils n'ont personne comme prêtre. Alors il est venu en France, il a appris le français, et il se formait pour être prêtre. Et par Internet, il traduisait d'abord la Bible en persan, et puis il accompagnait des catéchumènes par Internet. Un jour, il s'est rendu compte que tous ceux qui l'accompagnaient par Internet ont été convoqués à la police civile. Et qu'ils ont dû dire qui les formait. Et malgré ça, Timothée, quand il était venu, m'a dit, Bruno, est-ce que tu peux m'emmener à l'avion pour aller en Iran? Et sur le chemin, il m'a dit, tu sais, si je suis arrêté, voilà ce qu'il faut que tu fasses, ou pas, il savait très bien. Et il réunissait les catéchumènes en changeant d'endroit à chaque fois. Il avait bien qu'il n'était pas encore prêtre, au dispense du pape pour baptiser. Il était dans un jardin public, et là, la police est arrivée. Ils l'ont arrêté, il a fait 7 mois de prison, il a été battu, il a été torturé. Mais Timothée, il trouvait plus important de partager sa joie d'être chrétien que de sauver sa vie. Alors, il y a une rançon qui a été payée, il s'est échappé, il est en France actuellement. Mais c'est pour dire, moi ça me touche de savoir que des gens, ils préfèrent ne pas suivre la vie du monde parce qu'ils ont trouvé Jésus. Alors est-ce que vous, vous êtes persécutés?
Pas trop. Pas trop.
Une personne a été battue pour sa foi. Mais il y a une persécution invisible, beaucoup plus dangereuse. Par exemple, tu vas au café? Tu vas au café, mais ça ne sert à rien. Pourquoi tu y vas? Après, les mots persécution, c'est là. Oh, il est tôt ce matin, j'ai pas envie de me lever. Il y a ce risque. Ou alors, à quoi bon aller à la messe tous les dimanches? C'est plus valable. C'est idiot. L'esprit du monde peut saper notre foi. Et puis, quand il y a des fragilités qui se connaissent, comme ce qu'on vit actuellement dans le diocèse, il y a le risque de dire « j'ai confiance en plus personne » et parce que tel ou tel est fragile, de relativiser notre foi, de dire « ben non, j'abandonne ». Il y a d'autres risques. Il y a actuellement une pression sociale très forte pour légaliser l'euthanasie, le fait de donner la mort à quelqu'un. Ou le suicide assisté, on va aider quelqu'un à se suicider, la vie n'a plus de sens. Et ceux qui poussent dans ce sens-là vous racontent qu'on n'arrive pas à soigner la douleur. C'est faux. Dans pratiquement tous les cas, on arrive à traiter correctement la douleur. Et aujourd'hui, quand quelqu'un, si on a dépassé à un moment donné, on met une petite dose à l'infusion, l'hydrogène, pour que la personne, au moment où on est dépassé, soit un peu anesthésique, pour ne pas sentir. Mais on nous présente comme un idéal de mourir digne, c'est-à-dire en pleine forme. Et la liberté, c'est de savoir se tuer. Et on ne se rend pas compte, quand on fait ça, qu'on est en train de faire peser un poids énorme sur les épaules de tous ceux qui sont fragiles. Combien de personnes âgées vous diront « Mon Dieu m'a oublié. Qu'est-ce que je fais là? Donnez-moi la mort. » Et si vous ne répondez pas, vous avez raison, allez, on fait ça tout de suite. Vous avez nié sa dignité. Et je suis pour raconter une histoire. Un jour, j'étais donc médecin à l'hôpital Charles-Fort-de-Vry. Et arrive une dame, elle avait 82 ans. Dans ce temps, l'ascenseur, elle dit, voilà, j'ai 82 ans, j'ai plus de famille. J'ai un cancer du poumon. Je viens ici pour mourir, donnez-moi la mort. Madame, on prenait 30 dates d'entrée, hein, et on lui a expliqué tout ce qu'on cherchait il y a 30 ans. C'était en 80 ans. 40 ans. On lui a expliqué tout ce qu'on faisait pour traiter la douleur, pour traiter l'angoisse. Et cette dame qui voulait absolument mourir, eh ben, elle s'est réveillée. Elle allait bien. Je vous passe les détails, vous pouvez taper le nom et vous verrez toute son histoire sur Internet. Mais dans la dernière nuit, elle avait clairement demandé la mort, que ce qui fait la valeur d'un homme, ce n'est pas de savoir si on est en pleine forme, c'est l'amour de l'autre. C'est l'amour de Dieu. Si je prends la résurrection, la qualité de ma vie ne dépend pas de savoir si je peux gagner les Jeux Olympiques, si je suis jeune, beau, sans rides. La qualité de ma personne, de ma dignité, elle vient de Dieu. Il nous aime. Et elle est retransmise par tous les autres. Il nous aime. Et le courage, la charité, c'est pas d'éliminer l'autre, on élimine un problème. C'est de l'aimer, c'est de l'accueillir. La foi à la résurrection, ça change aussi notre rapport aux affaires, au matériel. Si je crois pas en la résurrection, je vais vivre maintenant, à fond, je m'en mets plein. Si l'autre a une grosse bagnole, je veux la même grosse bagnole. Si je fais un mariage, il faut que ce soit claquant, étincelant, qu'on en mette plein la vue. Et faites pareil. Je vais me déplacer toujours en voiture, quoi qu'il arrive. Je ne pense même plus à la planète. Je ne pense même plus à l'Évangile, à cet appel à partager, à respecter la maison commune, à respecter la planète. Ça ne compte pas pour moi. Si je ne crois pas à la résurrection, je m'aligne sur l'esprit du monde. Le pape parle souvent de l'esprit mondain, de la mondanité. Il fait référence à saint Jean qui dit « Ne vivez pas comme le monde, n'ayez pas l'esprit du monde. » Et alors, les réseaux sociaux, j'y vais en invective. Je ne sais pas si vous avez vu comme les réseaux sociaux sont circulés pour opposer les gens entre eux. J'ai suivi d'assez près les élections en Brésil. Et je regardais les Facebook des gens que j'ai connus comme chrétiens dans ma paroisse. Impressionnant les invectives qu'ils mettaient sur l'autre adversaire, sur l'autre candidat. Quand je ne crois pas en la résurrection, eh bien j'accuse la haine. Et il n'y a pas besoin d'Internet. Dès qu'on perçoit le défaut de quelqu'un d'autre en famille, dans la paroisse, alors on va se fâcher avec lui. Si je crois en la résurrection, je vais chercher à aider l'autre, je vais chercher à accueillir, je vais dépasser ce qui est difficile. La limite de l'autre, ce sera l'occasion de l'aimer encore plus. C'est comme ça que les populismes grandissent. La foi en la résurrection, elle m'amène à ne pas suivre le monde, à ne pas me laisser persécuter sans même m'en rendre compte. Au moment où on a changé les horaires de messe à cause de la santé du père, il va vite, il va bien, par ailleurs. J'ai entendu parfois des choses, on suivrait telle messe, etc. J'ai dit, mais est-ce que vraiment c'est l'Évangile qui nous anime? Est-ce que vraiment nous laissons guider par le ressuscité? Alors je reprends la lettre de Paul parce qu'elle est très belle. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés, et nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce, par son Esprit Saint, réconforte vos cœurs et les affermisse en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. Priez aussi pour nous, frères, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course et que partout on lui renvoie comme chez vous. Que le Seigneur conduise vos cœurs dans l'amour de Dieu et l'endurance du Christ. Que la parole de Dieu poursuive sa course. Vous avez peut-être pas entendu parler de la visite pastorale, je suis sûr que j'ai oublié de vous en parler. C'est dans une semaine maintenant. C'est un moment très important pour que la parole de Dieu poursuive sa course à chacune. Alors je m'adresse à chacun, chacune personnellement. Il dépend de chacun, chacune d'entre vous, que cette visite pastorale soit l'occasion que l'Évangile poursuive sa course à chacune. Si vous avez pensé à inviter des associations pour le jeudi 17 novembre, vous avez encore le temps de penser. Et je vous invite la veille à rappeler votre association. Tu penses pas à la réunion jeudi. C'est un moment très important. C'est original que l'Église, dans la maison pour tous, permette à des gens de toute opinion de se retrouver. Il y aura là aussi les autorités des autres religions. Et c'est pas banal que l'Église, au lieu de donner la leçon, Elles disent, nous voulons écouter le beau qui se fait dans toutes vos associations. Ça dépend de vous qu'il y ait du monde ce soir-là. Et vous êtes aussi invités à venir écouter. La deuxième étape forte qui vous concerne tous, c'est le dimanche 20 novembre. Le dimanche 20 novembre, on viendra par là, mais je rêve que tous ceux qui sont là ce matin, je les retrouve à Tabanel. Alors ceux qui peuvent, on arrive dès 11h du matin. Il y a l'accueil. Alors on vient aussi avec des gâteaux. Et on les passe aux jeunes, aux lycéens, et à ceux qui ont entre 18 et 30 ans, pour qu'après vous les revendent. Vous leur donnez gratuit, vous le revendez après, au profit des JMJ, pour qu'eux puissent connaître le Christ dans les JMJ et dans le fratellement. Donc on commence à 11h. Après on va voir un spectacle qui s'appelle comment le spectacle qu'on va entendre? Et des enfants de Jardin 3 nous seront à travers un conte, nous dire l'importance du partage. Après, il y a des animations. Si vous avez une association, si vous avez la paroisse, il faut qu'on fasse un panneau aussi, il ne faut pas qu'on l'oublie. Il y aura des stands pour rendre visible. Et puis, ceux qui n'ont pas pu arriver à 11h, vous arrivez avant 15h. À 15h, pendant une demi-heure, il y aura des prises de parole, seront présents les imams des boulevards, du bois lavé. Le rabbin, le rabbin c'est les juifs, le prêtre orthodoxe, les pasteurs protestants, la mairie, des élus autres. Imaginez que le gymnase soit plein. Les gens vont dire, bah, tiens, l'évangile ça existe, le Christ il fait encore vivre. Et ben voilà, je compte sur vous. Et puis je vous redis de la part de Paul. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés vous accomplisse en tout ce que vous pourrez faire et dire de vous.
Je crois que c'est lui que je vais faire parce que ma vie casse. C'est lui que je reste à la vie.